Les infos choisies
chaque vendredi de midi 30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Adélie Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies.
Et bonjour.
Bonjour.
Nous sommes donc le vendredi 2 février 2024. Il est 12h30 exactement. C'est l'heure des infos choisies. Aujourd'hui, c'est simple. On va parler de la grève de l'éducation nationale et de l'annulation de la salle de consommation à moindre risque avec Ruby qui est là.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci aux infos choisies.
Les infos choisies, vendredi.
Les
midi
infos
30.
Choisies, vendredi.
Les
midi
infos
30.
Choisies, vendredi, midi 30.
Et voilà, voilà, on est en manif. On pourrait être à celle contre la loi immigration alors que des sénateurs viennent de relancer un nouveau projet de loi comprenant certaines mesures que le Conseil constitutionnel avait censurées. Ou à la contre-conférence hier du syndicat de la famille sur le wokisme. Ou dans la manif Palestine alors qu'une pause humanitaire semble s'amorcer. Ou sur un blocage de routes paysans. Les agriculteurs avaient entamé hier leur 10e journée de mobilisation. Non, non, je pense pas qu'on y soit car ils lèvent leur barrage aujourd'hui. Ils ont obtenu plus de protection du montant de leur salaire, une enveloppe fiscale et sociale de 150 millions d'euros et une suspension de la loi qui tente de réduire l'utilisation de pesticides. D'ailleurs, vous saviez que dimanche, le groupe d'extrême droite Les Remparts de Lyon avait déployé une banderole sur le périphérique lyonnais. Ils réclamaient plus d'argent pour les paysans et moins pour les migrants. Non, non, c'est sûr, on est ailleurs.
Des travailleurs pour sauver l'école publique, même si Atta ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Castéra veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs, pour sauver l'école publique, même si Castéra veut pas, nous on est là.
Et oui, hier, dans la manif de l'éducation nationale, une banderole disait « Nous aussi, on a des tracteurs ». La ministre de l'éducation nationale, des JO et de la jeunesse, rien que ça, est bien le symbole d'une caste privilégiée. À peine arrivée qu'elle se trimballe un paquet de casseroles. C'est sorti sur l'école publique début janvier, ses enfants scolarisés à Stanislas, une école privée parisienne catholique, les magouilles sur Parcoursup. Dans la manif, s'acclame « Abolition des privilèges ». Une belle mobilisation hier. Elle réussit en 3 semaines ce que Blanquer avait obtenu en bout de 5 ans. Et elle se mobilise pour des meilleurs salaires, un écart public-privé très critiqué, de trop grand manque de moyens, une réforme sur les groupes de niveau prévus au collège. On écoute tout de suite le reportage de Camar avec des lycéennes du mouvement lycéen. Merci pour la prise de son.
Alors, qui est la responsable ou le responsable?
Gaspard, le mec avec le pull bleu.
Ah ouais, c'est lui le...
C'est Loulaï, mais... S'il vous plaît, on cherche Loulaï.
Et vous êtes qui, vous êtes?
Nous, on est aussi adhérents, mais c'est pas nous les responsables. On fait partie de la MNL.
Oui, enfin, un syndicat lycéen, le mouvement national lycéen. Et
vous avez quel âge?
Moi, 16 ans.
Ouais, pareil, 16 ans. Moi, j'ai
14
ans. Voilà.
Et vous n'êtes pas d'accord alors pour tout ce qui se passe? La ministre, vous êtes en colère contre ça?
On est en colère contre la ministre. Moi, je pense que la France est en colère contre Macron que contre la ministre, parce que c'est très bien que peu importe quel ministre aurait été, ça aurait été la même chose. Ça a été la même chose quand c'était Attal, ça a été la même chose maintenant que ce sera à Castéra. Et le prochain, ce sera la même chose aussi. Parce que c'est l'éducation nationale le problème, la ministre bien sûr que c'est un problème aussi, mais ça fait des années et des années que ça dure, qu'il y a énormément de problèmes avec l'éducation nationale, il y a un énorme manque de moyens, un manque de profs, il y a un manque de place, un manque de place dans les universités, dans les écoles supérieures, dans les études supérieures, donc ça fait énormément de raisons de pourquoi est-ce qu'on est en colère, et bien sûr, Dea Castéra, elle arrive un peu comme le cheveu sur la soupe, là on est très en colère, on est en colère contre elle et contre le système de l'éducation nationale en général.
Eh bien, j'ai presque l'impression que ça fait 2 ans que ça dure, mais rien ne change.
Exactement.
Est-ce que vous avez remarqué?
On est complètement d'accord, tu veux dire. Ouais. Oui, non, mais ça change rien et tout. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils vont mettre, je crois que c'est 4 milliards d'argent pour des uniformes qui, honnêtement, ne servent pas à grand chose, alors qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en train de mourir de faim.
On a l'exemple des JO où ils vont virer les étudiants des logements du Crous pour pouvoir loger les gens pendant les JO. Quand on est dans une lutte en France contre la précarité étudiante, c'est une aberration. Et on a l'impression qu'en fait, le gouvernement, au plus on leur parle et au plus on leur dit ce qu'ils ne voient pas, au plus ils font le contraire, comme si c'était un jeu, alors que ce n'est pas un jeu, c'est la vie d'étudiants qui est en jeu, justement. C'est la vie de toutes les personnes qui sont à l'école et qui vont être à l'école dans les années futures. Donc c'est la vie du futur, en fait, qui est en jeu.
Nos profs actuellement, qui sont mal payés, on n'a pas de prof. Moi, ma prof de maths l'année dernière, c'était même pas une professeure. Elle ne voulait pas y tout faire ça, mais elle a dû être embauchée à la dernière minute pour que je puisse faire des maths, en fait. Et c'est non, vraiment catastrophique, quoi. Le loyer des profs, c'est n'importe quoi.
Il y a combien ici de lycéens? Vous êtes regroupés ou quoi? Vous êtes...
Alors, donc il y a 3 lycées principaux qui sont les 3 lycées du centre-ville les plus importants, on va dire. C'est Thiers, Saint-Charles et Montgrand.
C'est toujours Montgrand, lycée Thiers qui sont en
et
premier.
Là, c'est plus Saint-Charles ces dernières années parce que c'est eux qui bloquent le plus. Mais c'est vrai que du coup, c'est les 3 lycées là qu'on voit qui sont le plus présents en manifestation. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'Aix qui ont pris le bus ce matin très tôt pour venir ici pour pouvoir bloquer. Il y a des gens de Marseille Vert et il y a des gens de beaucoup d'autres lycées, de Marie Curie. Enfin, c'est quand même un sujet qui fédère et on le voit parce que justement, il y a des lycéens, des étudiants de tous les âges et de tous les établissements.
Comment vous voyez la France de demain?
Là, on a un peu peur de comment va être la France de demain, mais on a à la fois une sorte de lueur d'espoir, en fait, quand on voit tous ces jeunes qui sont capables de se mobiliser, parce que néanmoins, être ici plutôt qu'en cours, c'est des absences qui ne vont pas être justifiées, donc ça nous met en danger en quelque sorte pour Parcoursup, mais de voir qu'il y a autant de jeunes qui sont prêts à prendre ce risque pour militer et pour faire changer le futur, c'est quand même, ça donne quand même de l'espoir, même si, quand on voit les décisions du gouvernement et comment ils réagissent face à nos revendications et à ce qu'on leur demande, donc. Comment ils ne réagissent pas, surtout finalement, c'est mitigé, on va dire.
Le syndicat pour vous, c'est quoi exactement?
Alors moi, je suis au MNL, le Mouvement National Lycéen. C'est le plus gros syndicat des Bouches-du-Rhône, le syndicat étudiant. On est une centaine environ à être adhérents là-bas. Donc pour moi, le syndicalisme, c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet de pouvoir nous regrouper, nous fédérer. Il y a des congrès qui sont organisés, on monte à Paris pour avoir des réunions au niveau national. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, hein, plutôt. Il y a beaucoup de rôles, beaucoup d'activités. Même quand c'est pas que des manifs ou des blocus, on a aussi, ça nous donne l'occasion de pouvoir faire plein de choses. Pour moi, le syndicalisme, c'est très important aujourd'hui et c'est pas destiné qu'aux gens qu'aux adultes, en fait, aux gens qui travaillent. Et c'est bien justement qu'on soit capable de pouvoir se syndicaliser et se regrouper, même en étant lycéen. Et que malgré toutes les différences nous désunissent dans la vie de tous les jours, on soit capable de s'unir sous le nom du MNL ou sous le nom d'autres syndicats, parce qu'il n'y a pas que le MNL, moi je parle du MNL parce que je suis, mais il y a aussi la FIDEL, il y a aussi Voix lycéenne, donc du coup c'est de pouvoir, et même entre les syndicats, même si c'est vrai qu'on peut avoir certains différents, le fait de pouvoir tous se regrouper, quand ce soit les assemblées générales, interlycéennes, tout ça, c'est très important.
Vous êtes dans quel mouvement?
Le Mouvement National Lycéen.
Le Mouvement National Lycéen, il est constitué de qui, de quoi, qui l'a créé?
Alors, je ne sais pas du tout qui est le créateur, honnêtement. Le MNL, il marche par fédération. Il y a une fédération par région. Donc, nous, là, on est dans la fédération du MNL 13, qui est la fédération qui a le plus d'adhérents de France. La représentante fédérale aujourd'hui de la fédération 13, c'est Loulaï Bouvier, qui est juste ici, si vous voulez, je peux l'appeler.
Oui.
Loulaï ! Loulaï ! Attendez, je vais la chercher.
Les infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Vitek the awesome.
1 for the party, 2 for the money, 3 for the honey, 4 when you shake your bum 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 bum.
See, me all like to party. Party with the boys, we get money. Me all like to party. Party with the girls, we get money. Hold on when the music all walk. Hold on when the music all walk. I like to party with Rashida and Nancy. Hey, see me whining. Hold on, not talking in bottles. Hey, I like to party with Shakira and Beyonce from Miami. Hey, I like to chill, chilling with Duse and Jesse. Jump.
I'm gonna do. shawty, creep and shake your bum 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 bum.
See, see, me I like to party. Party with the girls with their body. Hey, hey, me I like to party. Party with the boys with their money. Hey, hey. Go down when the music come up. Go down when the music come up. Go down when the music come up. When the DJ keep the niggas on up. See me wine, see me deep below. See me dance to reggae and calypso.
Il 2024 porte son lot de mauvaises nouvelles. La salle de consommation à moindre risque n'ouvrira finalement pas à Marseille.
Au 110 boulevard Libération. Il aura fallu un mois de mobilisation et de pression, de commerçants poujadistes, de propriétaires mécontents de voir leurs multiples biens dévalués, de riverains mal informés, voire pas informés, pour que la mairie du printemps marseillais revienne sur un projet de 10 ans, porté par les associations de réduction des risques de la ville. Nous voulons juste rappeler ici que l'usage de drogue traverse toute la société et qu'il n'est en rien limité aux personnes dites marginalisées, totem qui alimente les idées les plus fascistes. Donc, à toutes celles et ceux qui se rassurent en se focalisant sur leurs clichés à la con, pour ne pas voir que leurs enfants aussi se défoncent, sachez que ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis que vous allez régler le problème. Nous voulons rappeler aussi à la mairie de Marseille qui, au passage, s'est faite élire grâce aux voix des acteurs associatifs qui, tous les jours, ramassent des seringues dans la rue et à qui elle a promis et acté l'ouverture de ce lieu. Que c'est bien grâce à tous ceux et toutes celles qui croient à la réduction des risques que ce n'est pas la guerre dans la rue. Et non à tous ces petits fachos qui n'attendent qu'une chose, le moment où ils pourront porter un braquemar et tirer sur tout ce qui ne leur revienne pas. Au passage... Petite dédicace à Sophie Camard, maire du 1er et du 7e, qui a brillé par son courage, militant ouvertement contre l'installation de la salle.
Donc nous avons Ruby dans les studios, donc, qui faisait partie des infos choisies et d'une asso de RDR, de réduction des risques. Donc bienvenue.
Merci.
Pour revenir sur l'histoire de cette non-mise en place d'une halte soins addiction. D'abord, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bah déjà merci pour cette belle intro et ces bonnes punchlines dignes des infos choisies. Merci à vous pour votre soutien. Donc moi, je m'appelle Ruby, je suis intervenante en réduction des risques depuis plus de 15 ans maintenant. Et je fais aussi partie d'une des associations qui porte depuis maintenant très longtemps le projet de salle de consommation à moindre risque, autrement appelée halte soins addiction. Parfois communément appelée salle de shoot dans les médias, sur la ville de Marseille.
Et est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce que c'est une halte soins addiction et une salle de conso à moindre risque pour ne pas contribuer aux clichés ?
Alors en fait, c'est la même chose. Hein, le mot de halte soins addiction, HSA, il vient un petit peu remplacer l'acronyme de SCMR pour salle de consommation à moindre risque. Donc, tous ces acronymes compliqués désignent en fait un espace, un établissement médico-social dédié à l'accueil des personnes qui consomment des produits stupéfiants, donc des drogues, soit par voie injectable, soit par voie inhalée. Donc, l'inhalation, ça concerne les personnes qui fument dans des dispositifs comme des pipes, de la cocaïne basée, autrement appelée du crack. Donc c'est un dispositif qui regroupe des professionnels pluridisciplinaires du social, de la santé, du soin et parfois aussi d'autres corps de métier. et voilà, qui est dédié à l'accueil et l'accompagnement de personnes donc en situation de grande précarité, puisqu'on imagine bien que des personnes qui ont un logement, elles peuvent consommer chez elles à l'abri, qui consomment aujourd'hui eh bien, dans l'espace public. Hein. L'espace public, c'est les rues, les parkings, les parcs, entre les voitures, etc., qui consomment soit par injection, soit par inhalation.
Et j'imagine qu'il y a un accompagnement et il y a tout un dispositif social qui est mis un peu en place autour de la salle pour les personnes qui viennent.
Oui, bien sûr. Donc, les HSA, les salles de conso, c'est un dispositif qui vient compléter l'offre qui existe en ce qu'on appelle réduction des risques. Donc, si tu veux que je détaille peut-être un peu plus ce que c'est la réduction des risques. La réduction des risques, c'est la réduction des risques liés à l'usage de produits et c'est la réduction des risques, en fait, infectieux, principalement. C'est un dispositif de santé publique hein, qui est inscrit dans la loi depuis maintenant un moment et qui propose d'accompagner les personnes qui consomment de manière active, qui ne se propose pas forcément d'accompagner ces personnes-là vers le sevrage ou l'abstinence. C'est-à-dire que la réduction des risques, elle se propose d'accompagner toutes les personnes qui consomment pour préserver leur santé, pour pouvoir continuer à consommer en protégeant leur vie et en réduisant les risques et les dommages associés à la consommation. Donc ces risques et ces dommages, ben, comme on l'a dit, peuvent être d'ordre infectieux, hein, les épidémies à VIH, à hépatite C qui circulent encore et toujours. Pas mal aussi de risques bactériens, avec des risques d'abcès, d'endocardite liés à ben, l'injection dans de mauvaises conditions. C'est pas forcément que les gens savent pas s'injecter, c'est que parfois les personnes n'ont pas les conditions réunies pour procéder à une injection en bonne et due forme, avec un champ stérile, etc. Puisque encore et toujours, les stupéfiants, donc l'usage de stupéfiants, il est réprimé par la loi. En France, on a un arsenal législatif très sévère. C'est la loi de 70 qui encadre tout ça. Je vous invite à regarder un peu ce qu'elle représente, cette loi, puisque c'est vraiment une loi emblématique de la guerre à la drogue. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de proposer à des personnes qui n'ont pas les moyens de consommer dans des conditions d'asepsie ou d'hygiène basique, un endroit pour venir le faire, associé à tout un accompagnement, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de venir consommer dans un établissement, guinguette, tout ça est assez encadré par une grosse équipe de professionnels formés à tout ça, qui vont accompagner la personne, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social, ou de l'accès à plus de bien-être.
Et pour revenir à Marseille, donc, qu'est-ce qui explique ce revirement et cette annulation ? Est-ce que c'est joué au national, le changement de ministre de la Santé ? Est-ce que c'est la métropole contre la ville, la préfecture ou la mobilisation là, qu'il y avait eu des commerçants ? Ça m'étonne un peu, mais peut-être toi, tu en sais plus là-dessus parce que ça a été, ça a pris tout le monde de court.
Ben oui, et puis j'avoue que nous-mêmes, le consortium associatif qui sommes à l'origine du projet, on est un peu tombé de l'armoire aussi. Hein. C'est ce revirement brutal de situation. Donc le projet, donc des salles de consommation à moindre risque, il en existe deux en France actuellement, une à Paris et une à Strasbourg. C'est des dispositifs qui ont prouvé leur efficacité, qui fonctionnent maintenant depuis un certain nombre d'années. On a eu l'audace de se dire qu'une ville comme Marseille pouvait accueillir ce type de dispositif puisqu'on est une ville marquée par beaucoup d'inégalités, beaucoup de précarité et toutes les structures du champ de la réduction des risques actuellement voient bien qu'il manquait un dispositif à l'arsenal qui est déployé et donc ça fait une quinzaine d'années hein, que le projet de salle de conso marseillaise il est dans les tuyaux.
Il a été très, très bien pensé et ficelé.
Ah oui, on a eu le temps de bien bosser le dossier, en effet. Et on l'a soumis à toutes les mairies depuis la mairie Gaudin. Donc Jean-Paul Gaudin avait quand même signé la lettre. Donc comme on l'a dit, c'est un dispositif qui concerne de l'usage de drogue. Donc pour ouvrir un tel dispositif, en fait, il faut l'accord. Donc il faut bien sûr le champ sanitaire, le ministère de la Santé et les agences régionales de santé. Mais également tout le champ de la sécurité, avec le ministère de l'Intérieur, la préfecture également les représentants des plus hautes instances de l'État avec le procureur de la République. Et évidemment, la ville. Donc nous, on est une ville, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une mairie centrale et des mairies de secteur. Donc il faut l'accord à la fois de la mairie centrale et à la fois de la mairie de secteur où s'implanterait le dispositif. Donc après avoir essuyé pas mal d'échecs et de refus, donc dans l'intro, vous l'avez rappelé, Madame Sophie Camar, la maire du 1-7, a sué sang et eau pour s'opposer à l'implantation d'une salle donc dans ses arrondissements. Puisque, évidemment, tous les acteurs associatifs et politiques s'entendent sur le fait que cette salle-là, elle doit se trouver dans des endroits où les gens consomment et être le plus accessible possible aux personnes qu'elle pourrait concerner. Et donc, le quartier gare réformé nous paraissait tout indiqué, puisque les équipes de rue qui travaillent dans l'accompagnement des personnes utilisatrices de drogue ramassent énormément de seringues usagées dans ces endroits-là. Donc on se proposait juste d'ouvrir un établissement pour que les personnes puissent venir consommer, que nous, on puisse les accompagner et que les riverains puissent aussi vivre dans des quartiers qui ne sont pas jonchés de seringues avec tous les risques que ça peut représenter, évidemment. Donc on avait bien bossé le projet, on avait l'accord de la mairie, on avait vraiment monté un comité de pilotage assez sérieux. On avait trouvé un lieu d'implantation, donc comme vous l'avez dit, au 110 boulevard de la Libération, c'était mis à disposition par la mairie de Marseille. On était en train de recruter des équipes, hein, donc coucou à tous les gens qui ont postulé. Voilà, on était vraiment...
À deux doigts d'ouvrir, quoi.
Ouais, il manquait les travaux, les contrats, et on était prêtes à ouvrir ce dispositif qu'on appelle de nos voeux depuis déjà plus de 15 ans. Il se trouve que on a fait face à une mobilisation assez brutale de riverains, riveraines du quartier Libération qui se sont aussi organisés en collectif et en association, je crois, qui s'appelle Enfants Libération, et qui ont rapidement occupé tout le champ médiatique tout en refusant de dialoguer avec les associations donc responsables du projet. Et relayant vraiment un discours un peu, nous on dit toxicophobe hein, dans nos milieux, donc c'est pas très dur de comprendre ce que ça veut dire toxicophobe, c'est vraiment le rejet des personnes qui consomment sans s'intéresser à la complexité que ça peut vouloir dire de consommer de la drogue et d'être en situation de grande précarité. Du coup, ces gens ont fait pas mal de bruit. Vous aurez peut-être vu des affiches, entendu leur voix dans les médias locaux et nationaux. Et lors du dernier COPIL, on a assisté à un brutal revirement de la mairie centrale qui nous a dit que finalement, ça serait plus possible que ça se fasse aux locaux du 110 boulevard Libération. Donc voilà, on avait déjà engagé des travaux. On avait tout un plan architectural.
Donc c'est la mairie du central qui a annoncé l'arrêt.
Oui, okay. Voilà. Donc après, les enjeux, moi j'ai pas plus d'éléments que vous, hein, mais voilà, on peut se dire qu'il y a des enjeux électoralistes qui se jouent. C'est sûr que l'ouverture d'un tel établissement, on le dit, on le redit, mais ça demande un courage politique parce que c'est une question un petit peu complexe. Et c'était quand même inscrit au programme du printemps marseillais, hein, donc ils sont la mairie actuelle, quand ils ont soumis leur programme en 2020, l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque était inscrite. Hein. Donc on a eu peut-être le tort d'y croire.
Mais parce que une de mes questions, c'est qu'est-ce qu'ils ont à y gagner d'avorter ce projet au long cours? Toi, tu penses que c'est un truc purement pour satisfaire la droite et...
Ben ouais, il y a peut-être une peur d'avoir des retombées au niveau de l'électorat. Il y a peut-être un manque de courage politique. J'ai envie de dire, on ne voit pas bien, nous, ce qu'ils ont à y gagner, puisque pour nous, ce qu'ils ont à y perdre, pardon.
Oui,
puisque
on voit nous... ce qu'ils ont à y perdre, mais pas à y gagner. Quoi.
Exactement, exactement. Ouais.
Et du coup, on peut un peu raconter ce qu'ils ont à y perdre. Parce que si les personnes, elles sont moins bien prises en charge, en fait, par rapport même à sur des enjeux de sécurité publique, les gens, ils sont en train de consommer dans la rue. Du
mais
coup,
bien
ils ont
évidemment.
Beaucoup plus de choses à perdre que
oui.
à gagner dans cette histoire.
Mais exactement. Donc, on fait face à une espèce de politique de l'autruche. On s'est quand même fait dire que il n'y avait pas de consommation aux abords de Libération. Donc, je pense que voilà, il faut pas être professionnel de la profession pour être témoin chaque jour de situations quand même assez graves sur le point de vue humain et sanitaire. Et puis, on est quand même une ville, la ville de Marseille, qui a payé un très lourd tribut à la drogue et à la guerre qui lui a été menée depuis les années 80 et les morts massifs liés à l'héroïne. On est une ville qui a eu quand même le courage d'implanter des dispositifs super innovants. On dispose d'un bus méthadone, on dispose d'un Carud avec hébergement de nuit. On a été pionniers sur... sur cette histoire de réduction des risques, et c'est reconnu à l'international. Et en fait, là, on ne comprend pas bien ce qui bloque dans ce que nous, on propose comme juste un dispositif complémentaire à toute l'offre qui existe sur la ville. Du coup, on est un peu sous le choc. Du coup, on est ravis aussi de pouvoir être invités dans des émissions comme la vôtre et de sentir qu'il y a un soutien de, eh bien des gens, des citoyens, des citoyennes, au-delà des gens intéressés par cette question au niveau pro ou militant.
Bon, et ben merci beaucoup d'être venu. C'est déjà bientôt la fin des infos choisies. Bon, en tout cas, on peut voir qui choisissent dans la ville de Marseille à bichonner.
Voilà, et on ira se faire un plaisir de leur rappeler lors du conseil municipal du vendredi 16 février, puisqu'on organise une manifestation à laquelle vous êtes toutes et tous conviés si vous êtes lève-tôt, puisque rendez-vous à 8h à la mairie de Marseille le vendredi 16 février. Et il y aura une réunion de préparation à tout ça. Toutes les personnes en soutien sont les bienvenues le 8, je crois que c'est jeudi prochain.
Ah, génial.
Au 149 avenue de Toulon, voilà, il y aura une réunion publique avec l'ensemble des acteurs et actrices qui portent un peu ce projet. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et tous les soutiens sont bons à prendre.
Eh ben merci. Alors, c'est parti pour l'agenda vendredi ce soir à 19h à la DAR. Soirée de solidarité avec les réfugiés d'Arsac dans le Karabakh. Présentation, débat sur la situation dans le Caucase avec repas et musique trad.
Le 3 février, pardon, il y a un appel à manifestation à Marseille, donc en réponse à l'appel national de la marche des solidarités et des collectifs sans papier, avec les syndicats, les associations, les partis, les mouvements politiques. Manifestons massivement à Marseille le 3 février, donc c'est samedi, pour l'abrogation de la loi immigration, contre les politiques racistes, les idées d'extrême droite, pour la régularisation et l'égalité de tous et toutes. Le rendez-vous est à 14h, samedi 3 février, à la Porte d'Aix.
Et le collectif internationaliste Marseille Kurdistan organise à la DAR samedi une soirée de présentation de la revue Les Guérines, véritable outil de diffusion des idées révolutionnaires du mouvement de libération kurde. Il y a aussi, on peut rejoindre la longue marche internationale du 10 au 17 février 2024. Rassemblement et introduction le 10 février à Bâle en Suisse, ensuite longue marche du 10 au 17, conférence à Strasbourg le 15 février et dernière journée manifestation en Europe centrale le 17 février à Cologne en Allemagne. Pour plus d'infos, c'est en anglais longue marche 2024 @proton.me.
Toujours le samedi 3 février à 18h au local de Solidaire, donc qui se trouve au 26 boulevard Longchamp dans le 3e, aura lieu une rencontre. Donc c'est une rencontre qui est organisée à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme et de la librairie Transit autour des violences policières. Donc elle a pour titre « Violences policières, l'État hors la loi » et elle se déroulera en présence de l'avocat Arié Halimi.
Et dimanche, ce dimanche à 14h comme d'hab, Manif Palestine départ, porte d'Aix, de Gaza à Marseille, résistance.
Dimanche 4 février également à 18h, vous pourrez assister à une projection au cinéma Le Gyptis. Le Gyptis, il se trouve au 136 de la rue Loubon. C'est la projection du film Les routes de la transe, en présence de la réalisatrice Christine Coulange et de Jean-Louis Rose, le vice-président de l'Université de Mayotte, ainsi que de Jean-Pierre Dalbera, qui est expert de la chaire UNESCO ITEN. Donc rendez-vous au cinéma Le Gyptis au 136 de la rue Loubon, l'entrée est à prix libre.
Et comme tous les lundis de 18h à 21h, c'est la permanence de la Bibli féministe Les Héroïnes, au 81 rue Loubon aussi à la Belle de Mai.
Comme tous les mercredis de 18h à 20h à Solidaire, au 29 boulevard Longchamp toujours, c'est les permanences du collectif BTP. Un collectif organisé, un lieu d'échange et de soutien où on peut se parler des tafs du BTP et partager des galères, des questions et des conseils. Il s'agit de lutter pour les conditions de travail des travailleurs-travailleuses du BTP, d'obtenir de meilleures payes, de connaître leurs droits et d'agir contre toutes les discriminations sur les chantiers. Syndiqué ou pas, avec ou sans papier, avec contrat ou au noir, le collectif est ouvert à tous les travailleurs et toutes les travailleuses du BTP.
Et on peut rappeler la réunion de préparation le 8 février.
Voilà.
Et le conseil municipal, dans le matin du conseil municipal, le 16 février.
Le 16, exactement. Ça le 8, sera... ça sera à 18h au 129 avenue Toulon dans le 5e. Et le 16, rendez-vous à la mairie centrale pour manifester et soutenir le projet de salle de conso.
Et on a bien conscience qu'on avait beaucoup d'autres choses à en dire et que toi, t'étais partie pour pas 10 minutes d'interview, mais plutôt une demi-heure. Je suis bien désolée.
Ça me ferait un plaisir de revenir et peut-être avec des acolytes, qui sait.
Et voilà, c'est le format des infos choisies, c'est un peu court. Allez, bonne journée à vous. La suite, c'est l'agenda alternatif. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Bye bye.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.